Le coin écolo d'Alternative FM.
Pardon la flore, pardon la faune, pardon.
Cuisine pas bête pour ma planète, un ouvrage de Sarah Bien-Aimée, paru chez Terre Vivante. Dans son livre, Sarah invite ses lecteurs dans sa cuisine pour apprendre à mieux trier et à composter les déchets, mais aussi à utiliser les restes, choisir les modes de cuisson et le tout, très important, en consommant le moins d'énergie possible. Sarah, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur du livre Je craque pour le cru. Vous êtes aussi chargée de développement pour l'Association végétarienne de France. Vous animez des ateliers en magasin bio. Comment se passent vos ateliers que vous animez et dans quel magasin bio ?
À la base, je n'ai pas du tout de formation culinaire. Je ne viens pas du tout du monde de la restauration ni de l'hôtellerie. Je suis complètement autodidacte. Malgré tout, c'est vrai que j'ai toujours été extrêmement gourmande. Très attentive à mon alimentation, très attentive à l'origine des produits, à la façon dont les ingrédients arrivent dans mon assiette. Donc de mémoire, j'ai toujours été, même enfant, très attirée par les choses de la cuisine. Pendant longtemps, j'ai cru que je n'en ferais pas mon métier, ça a été le cas, puisque j'ai embrassé une autre carrière complètement différente. Puis j'ai été rattrapée par ma passion, un petit peu par hasard. À l'époque où je travaillais encore dans un domaine traditionnel, j'ai été contactée par un éditeur qui avait fait un tour sur mon blog et qui demandait si je pouvais faire des livres pour eux. Et j'ai un peu mis le doigt dans le grand âge parce que mon premier livre est sorti et j'ai été très sollicitée de part et d'autre sur la question de la cuisine végétarienne. Et je me suis mise à travailler dans ce domaine sans l'avoir du tout prémédité, sans du tout l'avoir prévu. Et me voici, donc effectivement, je suis chargée de développement à l'Association végétarienne de France, où je travaille sur l'introduction des repas végétariens dans les cantines, notamment dans les cantines scolaires. Et je suis par ailleurs formatrice professionnelle, c'est-à-dire que je forme des personnes qui sont dans le milieu de l'hôtellerie à la question végétarienne, par exemple, à des chefs qui souhaitent végétaliser leurs cartes, des entreprises qui servent un menu à leurs usagers, à leurs clients et qui veulent aussi introduire des ingrédients ou des plats végétariens dans les menus qui sont proposés. Voilà, donc aujourd'hui je fais plein de choses et j'anime effectivement pour des groupes des ateliers en biocoop. Alors c'est divers biocoop, je travaille essentiellement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes où je réside. Je travaille beaucoup avec la biocoop d'Aurillac où là j'anime systématiquement 2 à 3 ateliers par mois. Voilà, et puis j'écris des livres, voilà, où je raconte comment la famille des bien-aimés se dépatouille au quotidien de ces principes. On est une famille qui a toujours été intéressée par les choses de l'écologie, mais c'est pas simple, hein, parce que voilà, on a fait du chemin petit à petit. On est parti de très très loin, parce qu'on était à la base pas du tout sensibilisé aux questions du végétarisme, ni de l'impact environnemental de son assiette. Enfin, c'était vraiment très très loin de... On était surtout gourmands au départ. Voilà, donc on a introduit la question de l'écologie et de l'impact environnemental dans notre alimentation. Ça s'est fait sur 15 d'années. Et le dernier livre, Cuisine pas bête pour ma planète, c'est vraiment le témoignage de la famille bien-aimée quant à ses choix. Comment elle y est arrivée ou pas arrivée parfois. Les questions qu'elle s'est posées, les solutions qu'elle a essayées. On a tout à fait conscience de ne pas être au top dans nos diverses pratiques. Il y a des thématiques sur lesquelles on est vraiment très très bon. Alors on est très très attentif à l'origine des produits. On consomme vraiment des choses qui sont produites localement, de saison bio. On est très mauvais sur les emballages. Vraiment, voilà. Donc là, sur les choses, on estimait que la famille n'était vraiment pas au top et n'était pas en position de donner des conseils à quiconque. En fait, on a fait témoigner d'autres familles.
Oui.
Voilà.
La cuisine végétarienne ou végétalienne est tout sauf fade, Sarah. Il y a de la saveur au plat et il y a une texture agréable également. Dans votre livre, on est loin de la caricature du hippie qui mange des pousses de soja. Quels sont les produits que vous utilisez au quotidien ?
Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, la cuisine végétarienne peut être fade et pas bonne du tout, mais un peu comme toutes les cuisines. Et c'est vrai que quand on va dans un restaurant végétarien, on peut être agréablement surpris ou alors complètement déçu. Il y a vraiment, ben voilà, ça c'est lié aussi au talent de celui qui est au fourneau, de celui au sec qui est au fourneau. Mais effectivement, la cuisine végétarienne, quand elle est préparée par quelqu'un qui en a le goût et la compétence, c'est vraiment une cuisine incroyable, incroyablement savoureuse, variée. Enfin, moi, je sais que moi qui ai été élevée dans l'amour de la viande, du gigot pascal, du poulet frites, enfin voilà, j'ai vraiment été élevée dans une famille où la viande était très importante, on en mangeait 2 fois par jour. C'est sûr que pour moi, c'était hyper important de retrouver le plaisir de manger, même s'il n'y avait plus de viande dans mon assiette. Donc, alors au début, il y a 15 ans, quand je suis devenue petit à petit végétarienne, je me suis énormément appuyée sur des substituts de viande, qui sont les plus connus, le seitan, le tempeh, le tofu, éventuellement même des protéines de soja. Mais finalement, comme beaucoup de personnes qui deviennent végétariennes, c'est souvent une béquille au démarrage, parce que la sensation, la texture de la viande manque. On a tendance à se rabattre sur des substituts vendus dans le commerce, mais c'est quelque chose qui disparaît avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement, on se rend compte que ce qui est important, c'est la qualité des produits qu'on utilise, donc la qualité des céréales, des légumineuses, des fruits, des légumes. Et c'est aussi la capacité à utiliser des arômes qui peuvent venir des épices, qui peuvent venir de l'ail, de l'oignon. Donc par exemple, en cuisine végétarienne, quand on dit il n'y a pas un oignon, il y a plein de sortes d'oignons et plein de sortes de saveurs. Et on commence vraiment, quand on devient végétarien, on fait vraiment la différence entre tous les végétaux. Il n'y a pas une sorte de lentille, il y en a plein. Et on fait plein de choses différentes avec ces différentes lentilles. Donc en fait, on explore complètement le monde végétal d'une autre façon. On en découvre toutes ses facettes, toutes ses saveurs. Et effectivement, la cuisine végétarienne peut devenir une cuisine gastronome. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des chefs qui ont même jusqu'à avoir 3 étoiles, qui ont une cuisine végétarienne ou quasi-végétarienne, ce qui est vraiment le signe que la cuisine végétarienne n'est pas du tout en dehors de la gastronomie, du plaisir, voire du grand art.
Alors, votre livre nous amène à une réflexion sur l'utilisation d'appareils électroménagers, à l'utilisation des matériaux ayant un faible impact sur l'environnement. Vous n'avez pas toujours eu ce mode de vie, vous l'avez dit. L'élément déclencheur, c'était votre déménagement. C'est bien ça.
Oui, vous avez raison. On habitait à la région parisienne. À l'époque, on n'avait pas encore d'enfants, mais on s'apprêtait à accueillir le premier, notre fille aînée qui s'appelle Lily. Ce déménagement et l'arrivée de ce premier enfant nous a mis dans un état d'interrogation proche de la crise existentielle. On a commencé à se poser tout un tas de questions et on s'est vraiment demandé quel monde on voulait laisser à nos enfants qui venaient. Et on était jusqu'alors des gens, entre guillemets, parfaitement normaux, dans une hyper-consommation. Enfin, moi, j'adorais acheter toujours les derniers ustensiles de cuisine. Et c'est vrai qu'en arrivant en milieu très rural, dans une communauté où finalement les gens sont vraiment pas connectés à la consommation comme on peut l'être en ville, parce que tout simplement, ben, il y a très peu de magasins, hein, là où on habite. Quand on veut quelque chose, il faut vraiment se déplacer pour l'avoir. Il n'y a pas une consommation spontanée comme il peut y avoir en milieu très urbain. Et quand on est arrivé ici, c'est vrai que le mode de vie des gens qui nous entouraient nous a posé question. C'est-à-dire, tout d'un coup, je me suis dit, ouais, on est à la campagne, je vais faire des yaourts maison, ce que je fais toujours d'ailleurs. Mm-hmm. Et je me suis dit, bon, bah, yaourt maison, je vais acheter une yaourtière. Et il y a une amie sur place qui m'a dit, mais t'es bête ou quoi? Pourquoi t'achètes une yaourtière? Alors, je me dis, mais pourquoi on peut faire des yaourts sans yaourtière? Elle me dit, ben, évidemment, tu crois qu'on fait comment, nous? Et j'ai découvert, en fait, qu'on pouvait faire les choses avec très, très peu d'ustensiles. La yaourtière, c'est vraiment un exemple parmi d'autres. Et finalement, au fur et à mesure où les ustensiles se sont cassés ou sont tombés en panne, on a décidé de ne pas les remplacer. Et c'est vrai que, ben, au bout de quelques années, on n'a plus eu grand-chose dans notre cuisine. Alors, on a encore des choses, hein, parce que je fais toujours rigoler les gens en disant, je vous assure, on a même un grille-pain. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on a laissé tomber le micro-ondes, la vaisselle, la bouilloire, le robot ménager. On a vraiment plus grand-chose et on a gardé ce qui était important pour nous. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, c'est que peut-être pour vous, c'est très important d'avoir un lave-vaisselle, c'est très pratique. Pour nous, ça ne l'est pas. Par contre, nous, on a décidé d'avoir un blender. On cuisine d'une façon où le blender est vraiment super utile, super pratique. Donc on a gardé cet ustensile, mais on s'est séparé du reste. À chacun de mettre le curseur où il peut, où elle peut. C'est-à-dire, je pense qu'on peut tous avoir un mode de vie différent. L'important, c'est juste, je pense, d'avoir moins de choses, de consommer moins. Et puis surtout, ce que j'encourage les gens à faire, c'est de faire réparer. D'abord, d'investir dans de l'outillage, des ustensiles qui ont une bonne garantie, qui ont une bonne réputation, dont on sait qu'ils ne vont pas tomber en panne dans 6 mois. Et si jamais ils tombent en panne, eh ben, il faut être sûr qu'on peut les faire, qu'on les fait réparer. Parce qu'il y a trop d'ustensiles, notamment de cuisine, qui partent à la poubelle ou en décharge sans avoir de seconde vie. Et c'est bien dommage.
Vous parlez également d'imprimante 3D. On peut remplacer une toute petite pièce au lieu de changer une machine entière.
Oui, tout à fait. Alors, dans le bourg principal du territoire où on habite, il y a ce qui s'appelle un Fab Lab qui possède une imprimante 3D avec laquelle on peut réparer des choses qui sont cassées au lieu de changer la totalité de l'objet. Alors, je vous donne un exemple très très simple. Quand on casse la poignée de son frigidaire, on est très très embêté parce qu'en général c'est une pièce de rechange qui n'existe pas. Et quand il n'y a plus de poignée, eh ben, c'est bête à dire, mais le frigidaire est quand même trop compliqué à utiliser et en plus souvent il ferme beaucoup moins bien. Ben, quand votre poignée elle est cassée, vous pouvez l'emporter dans un Fab Lab qui va scanner en 3D la pièce cassée et qui va la refaire à l'identique. Et au lieu de changer le frigidaire entièrement, pour 5, 6 ou 7 euros, vous faites refaire votre poignée de frigidaire. Le frigidaire est reparti pour quelques années de fonctionnement. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment de rencontre où la technologie vient aider aussi une forme de décroissance. C'est-à-dire que la technologie, quand elle est bien utilisée, elle peut nous aider à faire durer les objets avec lesquels on vit tous les jours.
Alors, pourriez-vous nous donner le processus de fabrication du four solaire en carton fait maison ?
Alors, comme ça, à la radio, c'est compliqué d'expliquer, mais dans le livre, j'ai mis un patron qu'on peut agrandir et décalquer sur une feuille de papier. Et une fois qu'on a dessiné ce patron en respectant les mesures qui sont indiquées dans le livre, on récupère et on découpe des cartons d'emballage. Il suffit d'avoir du papier d'alu, du scotch, un peu de colle et des ciseaux. Et en fait, on va faire un pliage du carton qui va, une fois plié, former une sorte de cavité. Et on va recouvrir ce carton de papier d'aluminium. Une fois que le découpage, le pliage et le collage du papier a été fait, on peut plier le four sous forme d'une feuille A4. Ça prend très très peu de place. Et vous allez me dire, là, son truc à Sarah Bien-Aimé, ça marchera jamais. On peut rien faire cuire avec un bout de carton et de papier.
Ça paraît fou quand même.
Voilà, ça paraît fou, mais détrompez-vous. Nous, on est l'attraction de tous les étés parce que, alors, l'été, on a tendance à se balader. Et alors, on fait fureur parce que quand on s'arrête dans un camping, le matin en partant, vers 9h, quand le soleil tape déjà, on met notre riz dans la casserole, on déplie notre petit morceau de carton, on met la casserole et quand on revient à 13h, eh ben, on mange notre riz tout chaud qui a cuit. Et les voisins sont toujours estomaqués et en général, ils nous demandent le patron du four solaire pour faire la même chose. D'une part, parce que c'est super pratique, vous n'en portez pas de gaz, vous ne pouvez pas mettre le feu, ça ne peut pas brûler. En plus, c'est magique quoi. Pour les enfants, c'est de redécouvrir l'énergie solaire sous une forme très très ludique et très simple.
Votre livre est facile à lire. En plus, il y a des images humoristiques. Est-ce que c'est un ouvrage qu'on peut retrouver au sein des écoles, des associations, des MJC ?
Alors, je ne sais pas si on le trouve facilement. Ce qui est certain, c'est qu'il est absolument dans toutes les librairies. Mmh. Il est publié chez un éditeur très engagé qui s'appelle Terre Vivante, avec lequel je suis vraiment très très fière de travailler parce que j'aime vraiment beaucoup le travail qu'ils déploient dans leurs différentes collections. Et c'est un éditeur qui est très très bien diffusé, qu'on trouve absolument partout. Mais je dois vous dire que votre question me fait sourire parce que j'ai écrit ce livre en espérant vraiment que grâce aux petits dessins humoristiques faits par Michel, notamment, par la simplicité du texte et tout le côté un peu rigolo du texte, c'était vraiment dans l'espoir que ça touche les plus jeunes, que ça soit utilisé dans les assos, dans les écoles, et que tout en faisant rigoler les gens, ça leur donne des idées, des envies, en se disant, bon, bah, la famille bien aimée, ils n'ont pas l'air plus fortiche que nous, Mais ils ont réussi à faire des trucs, alors nous aussi on va essayer des choses qui nous plaisent. Donc ben, j'espère que le livre va fonctionner du tonnerre et qu'il va aller dans tous ces endroits où on fait de l'éducation.
Alors, nettoyer, récurer et faire briller sans polluer, c'est pas évident. Vous n'avez que le liquide vaisselle comme produit ménager, Sarah ?
Alors, au niveau des produits ménagers, c'est très simple. Nous, on achète encore à l'extérieur du liquide vaisselle en vrac, c'est-à-dire qu'on vient avec notre bidon et au magasin bio, on remplit notre bidon avec du liquide vaisselle. Hors de la cuisine, on achète également du liquide pour notre machine à laver, on l'achète en vrac, on vient avec notre bidon, on le remplit, on repart. Et donc, on achète encore ces deux produits-là. Et pour tout le reste, alors, on utilise uniquement du bicarbonate de soude et éventuellement un petit peu d'huile essentielle de citron pour que ça sente bon et que c'est pas en fait. Et du vinaigre ménager. C'est tout ce qu'on a. Et je dois vous dire même que, comme je trouve que l'huile essentielle de citron, c'est un peu cher, dernièrement, mais je n'avais pas encore découvert ce truc-là quand j'avais écrit le livre, maintenant, quand j'utilise des agrumes, je récupère toutes les peaux d'agrumes, je les fais tremper dans du vinaigre ménager dans un bocal, je laisse 3 semaines, 1 mois. Le vinaigre se colore en jaune ou en orange, ça dépend des agrumes qu'on a utilisés, et ça fait un désinfectant hyper efficace et qui sont super bons. Donc j'ai même abandonné l'achat des huiles essentielles de citron. Et nous, on nettoie toute notre maison avec le vinaigre ménager, le bicarbonate de soude et la lessive qu'on achète en vrac en magasin bio. On n'a que ça, on a un budget produits ménagers vraiment très très bas. Et en fait, nous, on se rend compte qu'on n'est plus les seuls. Il y a plein de gens autour de nous qui ont arrêté d'acheter des trucs pour décaper le four, de la mousse pour décaper la baignoire, tout un tas de trucs qui sont absolument terribles pour la planète. Et il y a plein de gens qui sont en train de redécouvrir des choses de grand-mère pour nettoyer leur maison et qui se rendent compte que ça marche super bien.
On peut retrouver également dans Cuisine pas bête pour ma planète différents logos qu'on peut voir sur certains emballages et équipements ménagers qui indiquent si le produit est recyclable ou pas. Mais la plupart du temps, en fait, le consommateur s'y perd. C'est juste un logo, il n'y a pas beaucoup d'explications et en plus, ça prête à confusion.
Eh ben, je dois vous dire que c'était un petit peu le coup de gueule du livre. Je ne m'étais pas vraiment penchée avant le livre sur cette histoire de logo. Je l'ai vraiment fait pour en savoir plus au moment de la rédaction de l'ouvrage. Et même si je savais certaines choses, je ne savais encore pas tout. Et ça m'a mis très en colère parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de logos d'abord qui étaient au mieux incompréhensibles par le grand public, mais au pire qui induisaient le public en erreur, sciemment ou pas. Mais moi, ce que je laisse entendre dans le livre, c'est qu'il y a vraiment des logos qui induisent sciemment le grand public en erreur. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une économie de marché de l'agroalimentaire qui dépend quasiment à 100% de la capacité d'emballer des produits. Il suffit d'aller dans n'importe quel supermarché et si vous enlevez ce qui est emballé, il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, on a vraiment intérêt à faire croire au plus grand nombre que tout est recyclable et qu'il n'y a pas de problème. Or, dans le livre, ce que j'explique, c'est qu'en dépit de tous ces logos, très peu de choses sont recyclables, très peu de choses sont recyclées. Et pour donner un exemple qui n'est quasiment jamais connu du grand public, quand vous mettez une bouteille de lait au recyclage, vous avez le sentiment que votre bouteille de lait, elle est recyclable à l'infini. Dans le meilleur des cas, cette bouteille, elle sera recyclée 2 fois et à la 3e occurrence, elle sera incinérée, c'est-à-dire brûlée ou enfouie. C'est-à-dire que le cycle de recyclage des produits, et notamment du plastique, est très 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 petit, très court. La seule chose qui est vraiment recyclable à l'infini, c'est le verre, où il y a effectivement très peu de déperdition, et éventuellement l'alu, et malheureusement l'aluminium en France, la filière du recyclage n'est pas encore bien organisée, donc l'alu va souvent à l'incinération alors qu'il est très bien recyclable. Donc dans le livre, je tire vraiment la sonnette d'alarme, voilà, on nous inonde de logos qui nous font penser que le recyclage, c'est la panacée, que tout est recyclé et tout est recyclable à l'infini.
Donc on peut acheter encore et encore.
Voilà, et qu'on peut se consommer à fond sans se poser de questions sur la pollution pour la planète. Or, c'est pas vrai. Et la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vraiment diminuer ces emballages à la source, en acheter moins, privilégier le verre, aller faire ses courses avec des emballages réutilisables et mettre la pression sur l'agroalimentaire et la grande distribution en refusant le suremballage et en s'exprimant et en parlant à ses élus pour dire que vraiment c'est scandaleux.
Et puis pour terminer, Sarah, pourriez-vous nous donner la recette de votre fromage ?
Alors, lequel dont vous parlez ? Celui avec la rillette à base d'okara ?
Aux fines herbes.
D'accord. Et rappelez-moi l'ingrédient principal, c'est avec du yaourt de soja ?
Oui, c'est bien ça.
C'est ça ? Nous, on adore ce qu'on appelle les fromages, c'est-à-dire des fromages qui ne sont pas faits à base de lait, mais d'un autre ingrédient. Alors, on a tout un tas de recettes de fromages dans la famille bien-aimée. Mais un de nos préférés, parce que c'est une recette qui est très facile à faire et qui régale tout le monde, c'est le fromage aux fines herbes. C'est très simple, on achète du yaourt de soja qu'on fait égoutter pendant au moins une nuit dans un torchon ou dans un linge propre. Il va devenir très très épais, presque quasiment comme du mascarpone. Ça va faire une crème très très épaisse. Et c'est tout simple, à l'intérieur, on va ajouter un peu de citron ou un peu de vinaigre, un petit peu d'ail frais, on va ajouter de la ciboulette, on va tout simplement laisser quelques heures au frigidaire infuser les herbes et l'ail et le citron à l'intérieur de cette crème très très riche. Et après, on se fait des toasts de pain bien chauds. On tartine le fromage bien épais en rajoutant éventuellement un petit peu de ciboulette par-dessus. Et c'est juste du tonnerre. Et on peut aussi manger ce fromage avec des pommes de terre, des petites râpes vapeur qu'on aura fait cuire là, qui seront encore toutes tièdes. Et on ajoute le fromage sur les patates vapeur. Et c'est pareil, c'est vraiment délicieux. Et d'ailleurs, même en parlant là, j'ai l'eau à la bouche, j'ai envie d'en manger.
Eh bien, bon appétit. Votre livre, c'est un vrai bijou. Je rappelle qu'on peut le retrouver chez Terre Vivante. Et le papier de votre ouvrage est issu de pâtes vierges produites écologiquement en Europe à partir de forêts gérées durablement. Vous ne faites pas les choses à moitié, Sarah.
Mais oui, et ça, c'est l'engagement de mon éditeur Terre Vivante qui ne fait jamais rien à moitié et qui n'est pas à moitié engagé. Et c'est pour ça que je suis ravie de travailler avec eux.
Le coin écolo d'Alternative FM.
Pardon la flore, pardon la faune, pardon.